15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Pour répondre à vos interrogations sur les petits et gros bobos qui vous préoccupent, il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à l'abdominoplastie. Comme son nom l'indique, c'est une opération chirurgicale qui se situe au niveau du ventre principalement. C'est de la chirurgie esthétique quand on la pratique par exemple après plusieurs grossesses. Mais c'est aussi une véritable opération de reconstruction après une importante perte de poids. Nous ferons le point sur cette intervention avec notre invité, le professeur Barbara Hersant. Elle est chirurgien plasticien et esthétique à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'un événement assez inquiétant pour les jeunes parents, la convulsion fébrile du nourrisson. Il nous donnera d'ailleurs quelques conseils si votre bébé fait un jour ce type de crise. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, on va parler d'une maladie qui, elle aussi, peut être très dangereuse pour les bébés, la coqueluche. On vous dira tout sur cette pathologie. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc. Le meilleur de Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de l'orgasme féminin. Un objectif parfois difficile à atteindre. Elle nous en dira plus.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle de Florent.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je voulais savoir ce que c'était la mort subite, savoir si tout simplement vous pouvez comparer ça à une espèce d'infarctus, et puis si ça arrivait que aux professionnels qui faisaient un entraînement régulier, ou si ça peut arriver aussi à des personnes lambda, voilà, moi par exemple qui pratique le sport de manière occasionnelle, je voulais savoir si ça venait de l'alimentation également, je sais pas trop. Donc voilà, merci à vous.
Jimmy, on va commencer donc par un point sur la mort subite. Alors, c'est un mal d'origine cardiaque, a priori. On va préciser ça, mais d'abord, est-ce que c'est fréquent ?
En tout cas, c'est plus fréquent que ce qu'on pense. C'est 10% des décès en France. Ce sont donc des morts subites. C'est la première cause de décès avant 50 ans. Devant les infarctus du myocarde, c'est 40 à 60 000 décès par an en France qui sont dus à cet arrêt brutal du cœur. Même si les données sont assez imprécises, on sait qu'il y a un pic de fréquence entre 45 et 75 ans. Et ça touche 3-4 fois plus les hommes que les femmes.
D'accord, il se passe quoi quand on est victime d'une mort subite ? Donc on pense que c'est cardiaque, non, le souci ?
Alors, on sait qu'avant 35 ans, les causes sont dominées par les pathologies coronariennes, donc les pathologies des artères du cœur, et ce qu'on appelle les cardiomyopathies, des pathologies cardiaques sous-jacentes. On sait qu'à ce moment-là, les gens vont décéder par ce qu'on appelle un trouble du rythme ventriculaire. Ils vont faire ce qu'on appelle une fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'activité électrique du cœur va être anarchique, le cœur va battre très vite et un peu n'importe comment, et ça va conduire à l'arrêt cardiaque. Dans plus de 80% des cas, on sait que si vous utilisez rapidement un défibrillateur, ça permet d'améliorer le taux de survie qui reste assez faible et le pronostic est catastrophique. On est à moins de 5% de survie en France. Et enfin, dans 50% des cas, on n'a absolument aucune cause identifiée à ce décès.
Alors, il y a quand même des signes précurseurs qui pourraient dire, je sais pas, attention, ce jeune homme, par exemple, est particulièrement à risque d'être victime un jour de ça ?
Malheureusement, non. Aucun, par définition, c'est une mort subite. On n'a pas de signe avant, on n'a pas de signe quasiment pendant. On sait que le décès survient rapidement. La seule chose, c'est que parfois, on retrouve des histoires familiales où il y a eu des morts subites un peu inexpliquées. Et ça doit vous alarmer.
D'accord. Et alors, au-delà de l'aspect spectaculaire de ce type de décès chez un jeune adulte qui pratique le sport, on a vu des images, par exemple, parfois de footballeurs très jeunes de haut niveau qui s'effondrent comme ça sur le terrain. On peut éviter l'issue mortelle, même, je ne sais pas, ça peut arriver en foot amateur aussi.
C'est les gestes de premier secours. On a des exemples très célèbres. David Ginola qui a été finalement, qui a survécu grâce au massage cardiaque. Et puis j'ai un ami, le docteur Kadiba Koulibaly, qui est intervenu au SAMU devant une petite fille de 7 ans qui a fait un arrêt cardiaque devant l'école. Elle s'est effondrée. Heureusement, les maîtresses étaient là. Elles ont massé la petite. Et comme il y a eu un massage cardiaque précoce, ils ont récupéré cet arrêt cardiaque. Et en fait, elle avait une arythmie congénitale assez rare. On lui a posé un défibrillateur et la petite va bien. Mais c'est grâce au massage cardiaque. Formez-vous aux gestes de premier secours.
Et oui, c'est ça. Merci beaucoup, Jimmy. Et le défibrillateur, vous le disiez, on en trouve dans les lieux publics et même dans les lieux de sport maintenant.
Enfin, exactement.
Il ne faut pas hésiter à les utiliser. C'est pas compliqué. Voilà.
Exactement. Et c'est ce qui sauve les vies, le massage et le défibrillateur.
Merci, Jimmy. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Nicolas qui nous a appelé de Bourges. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. Je vous appelle car j'ai un pote qui se sent pas très bien en ce moment au niveau de l'odorat. Il semble rien sentir depuis 2-3 jours. Je pense qu'il va aller consulter, mais j'avais entendu parler d'anosmie. Alors pourriez-vous me dire quelle pourrait être la cause de ce souci pour lui et surtout quelle est l'origine de l'anosmie en général ? Merci beaucoup.
Alors l'anosmie, Jimmy, expliquez-nous, c'est quand on perd donc l'odorat et pas le goût, hein, je crois.
Oui, exactement. L'anosmie, c'est la perte de l'odorat. La gueusie, c'est la perte du goût. En revanche, les deux handicaps sont souvent associés car lorsque finalement vous n'avez plus d'odorat, bah, vous n'avez plus de goût parce qu'il y a une forme de rétrocontrôle au niveau du système nerveux central et donc ça peut entraîner l'un peut entraîner l'autre. La gueusie, c'est le fait qu'on n'a plus la sensibilité du salé, du sucré, de l'acide et l'amer. Et l'anosmie, on en a encore et c'est très fréquent, c'est 15% de la population, c'est sous-diagnostiqué.
D'accord, alors on a compris la différence entre les deux, mais pourquoi on perd l'odorat comme ça ?
Alors, on ne sait pas trop, il y a des causes congénitales qui restent assez rares. On sait que certaines pathologies, des rhinopharyngites à répétition...
Donc ça peut être viral l'origine en
exactement,
fait. Hein, ouais.
Suite à une grippe, bizarrement, on peut perdre l'odorat. Certains traumatismes crâniens, même mineurs, même si on sait que plus l'intensité du traumatisme crânien est importante, moins on a de risques d'avoir ce trouble. Et puis, certains traitements peuvent donner ça. Et certaines maladies neurologiques dégénératives, c'est plus fréquent que ce qu'on croit.
D'ailleurs, je crois que ça peut être un signe très rapidement de maladie d'Alzheimer. Hein.
Exactement, c'est un signe précoce de maladie d'Alzheimer. On sait que dans la maladie d'Alzheimer, on a des plaques amyloïdes, c'est une forme de glu entre les neurones, et la dégénérescence sont concentrées au niveau des structures cérébrales olfactives, périphériques et centrales, celles qui contrôlent donc le goût. Donc ça peut être un des signes qu'on retrouve, mais associé à d'autres, évidemment, dans la maladie d'Alzheimer.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Nicolas qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous expliquer ce qu'est une convulsion fébrile du nourrisson, un accident plus impressionnant que grave, heureusement. Et puis, on accueillera aussi notre invitée, c'est le professeur Barbara Hersant. Elle est chirurgien plastique et esthétique. Elle va tout nous dire sur l'abdominoplastie, une opération du ventre, donc, qui peut même se faire aujourd'hui de façon moins invasive grâce à un robot. On va tout vous expliquer. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur Barbara Hersant, avec qui nous allons tout vous expliquer sur l'abdominoplastie, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'un événement assez angoissant pour des parents, mais finalement sans réelle gravité, la convulsion fébrile du nourrisson. Alors moi, je sais pas, vous dites que c'est pas grave, mais je trouve ça flippant rien que le nom. Vous m'avez expliqué qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Bon, j'ai quand même peur, mais c'est quoi ces crises convulsives?
Alors, c'est donc des crises de convulsion chez un enfant qui est généralement en bonne santé et dont le développement cérébral est normal, qui surviennent de façon inattendue, le plus souvent au début d'une maladie qui peut être identifiable ou de façon inaugurable, dans un contexte de fièvre, avec une fièvre qui peut démarrer à 38, quelle que soit la cause de la fièvre. C'est-à-dire qu'une banale rhinopharyngite accompagnée de fièvre peut faire convulser un enfant. C'est très fréquent, c'est 2 à 7% des enfants avant 5 ans.
Oui.
Ça touche autant les filles que les garçons. Ça commence en règle générale à partir de 9 mois, avec un pic maximum à 18 mois, et ça reste rare après 5 ans.
Ouais, mais ça fait quand même peur, je suis quand même contente que ça ne me soit jamais arrivé. Mais bon, c'est quoi une crise d'épilepsie? C'est comme une crise d'épilepsie classique, je veux dire, ça ressemble à ça?
Exactement, en général, la crise, elle est unique. Parfois, elle peut se répéter 2 ou 3 fois au cours d'un même épisode, mais ça reste assez rare. Elle est brève. Ça dure de 1 à 5 minutes et souvent, c'est une angoisse, les minutes paraissent des heures. Donc, premier conseil, si jamais ça vous arrive...
Avec un gamin qui convulse...
Il faut, c'est très peu, mais il faut chronométrer. Il est important parce que souvent, il y a une distorsion du temps et les parents pensent que ça dure des heures, ce qui est normal. Mais le fait de chronométrer nous permet de se dire que ça dure moins de 5 minutes parce qu'après, il y a des gestes à adopter. Elle est souvent bilatérale et symétrique, c'est-à-dire que l'enfant a les 4 membres qui sont toniques, la crise tonico-clonique classique. Il n'y a pas de déficit neurologique. Par la suite, l'enfant récupère après une petite phase qu'on dit post-critique où il est en quelque sorte un peu ensuqué, mais il retrouve très rapidement ses esprits.
Et comment ces crises fébriles, elles évoluent en fait?
L'évolution est bénigne dans 98% des cas, quel que soit le tableau clinique. Il y a un risque de récurrence, c'est-à-dire qu'on sait qu'après un premier épisode, un enfant a 25 à 50% de chances de refaire un deuxième épisode. Donc il faut s'y préparer. On sait que plus l'enfant grandit, moins il y a un risque de récidive. Il est de 30% à 2 ans. La récidive, elle a lieu dans 90% des cas dans les 2 ans qui suivent la première crise. Dans 50% dans les 6 mois. En ce qui concerne le risque d'épilepsie par la suite, parce que c'est ce qui inquiète les parents.
Bah oui, si
est-ce que mon enfant sera épileptique? Alors, ce risque, il est plutôt controversé. On sait qu'il est globalement de 1% après une convulsion fébrile simple et de 10% lorsque la crise convulsive est un peu compliquée. Et on sait que ce risque est doublé après un deuxième épisode.
Bon, le plus important, je pense, pour les auditeurs qui sont intéressés par accueillir des bébés ou des enfants petits, qu'est-ce qu'on fait si une crise survient? Comment on réagit?
Alors, on chronomètre, comme je vous l'ai dit.
Ouais,
on regarde
ça,
l'heure
très
rapidement.
Je sais pas si j'y penserai, mais
on
d'accord.
regarde juste, on jette un coup d'œil à sa montre. Ensuite, il faut mettre l'enfant en position de sécurité. On le met sur le côté, la tête un peu plus basse que le corps, c'est-à-dire qu'on enlève les oreillers, qui sont superflus et dangereux. on essaie de lui libérer ce qu'on appelle les voies aériennes, c'est-à-dire on lui ouvre la bouche et on lui, pour, on sait jamais s'il vomit pour éviter qu'il inhale, on le découvre si jamais il était plein de couches et puis on le surveille et on attend que ça passe. Lorsque l'épisode dure plus de 5 minutes chez un enfant qui a fait, déjà fait des crises, on peut administrer un traitement qui s'appelle le Valium, qu'on peut injecter soit en intrarectal, soit dans la bouche, et un dispositif qu'on appelle le Bucolam, qui permet de stopper la crise. C'est très impressionnant, mais rassurez-vous, dans l'immense majorité des cas, tout rentre dans l'ordre.
Bon, j'ai toujours aussi peur, mais merci quand même, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le professeur Barbara Hersant. Elle est chirurgien plasticien et esthétique à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, à la PHP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Et avec elle, on fait le point sur l'abdominoplastie.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Hersant.
Bonjour.
Alors avec vous aujourd'hui on va parler d'abdominoplastie. Je sais qu'il y a plusieurs techniques. Grosso modo quand même, c'est quoi le principe? On attaque donc, c'est de, on est sur le ventre hein, là, c'est ça?
Exactement. Donc le principe c'est qu'il s'agit d'un lifting de l'abdomen et on peut également retirer l'excès graisseux superflu par de la lipoaspiration associée et parfois on peut faire également des gestes sur les muscles pour gainer la taille et puis refouler le contenu digestif dans l'abdomen.
Jimmy ?
Vous avez, je suppose, plutôt des femmes ou non, c'est une idée reçue ça ?
Alors, il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais il y a de plus en plus d'hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus d'obèses qui sont traitées par la chirurgie bariatrique et l'obésité touche également les hommes.
Et oui, parce que j'imagine que comme ce type de chirurgie, donc chirurgie bariatrique, a explosé, vous aussi, le nombre de demandes d'abdominoplastie a dû exploser de manière
également,
folle.
Également, oui, tout à fait. En fait, l'abdominoplastie, ça a toujours été une intervention très demandée par les patients, mais c'est vrai que depuis l'explosion de la chirurgie bariatrique avec ses pertes de poids colossal, eh bien, il y a de la grosse reconstruction à faire. Et la première demande, c'est le tablier abdominal.
Le tablier abdominal, ça veut dire quand le ventre passe au-dessus du
pubis. Tout à fait.
Hein,
d'ailleurs, il peut y avoir une prise en charge si ce tablier recouvre les organes génitaux.
D'accord. Et ça, c'est donc autant des hommes que des femmes. Vous avez des demandes des deux et vous avez à la queue, non ? Il doit y avoir beaucoup de monde, puisque le nombre, je crois que ça a été multiplié par 5, 6, je ne sais plus le
voilà,
nombre.
Voilà, ça a été multiplié par 5, ah, exactement.
Et vous, pareil, du coup, les résultats derrière pour réparer. Merci beaucoup, professeur Hersant. On ne fait que commencer cet entretien, bien sûr, on reste ensemble.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est le professeur Barbara Hersant, chirurgien plasticien esthétique à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Professeur Hersant, on va commencer par l'abdominoplastie classique. Comment ça se passe ? Donc vous avez dit c'est un lifting du ventre. Donc en gros, je sais pas, vous ouvrez, vous tirez la peau, vous en retirez, vous refermez, c'est ça ? J'ai un peu schématisé quand
voilà.
même. Hein.
En gros, on fait une incision d'une hanche à l'autre. On va à ce moment-là décoller tout le tablier abdominal. Donc finalement, toute la peau et la graisse qu'on va décoller du muscle des grands droits. Et puis, on va réséquer l'excédent cutané ou graisseux. Et puis, on va faire un lifting et on va ressortir le nombril à une nouvelle place. Parce que vous imaginez bien que si on tire tout ça, le nombril, il se retrouve au niveau du pubis.
Et oui, donc il s'en va, lui, avec
voilà.
la peau qui est
retirée.
Donc
il faut le transposer. On le remet à une nouvelle place. Donc il y a deux cicatrices. Une au niveau du nouveau nombril et une d'une hanche à l'autre cachée dans la culotte.
Très bien, Jimmy.
Et vous faites aussi conjointement de la lipoaspiration, c'est-à-dire que la graisse qui a été aspirée ne part pas à la poubelle, on la met ailleurs ?
Alors, effectivement, quand il existe ce qu'on appelle des lipomeries, c'est-à-dire des excès graisseux, on peut associer un geste de lipoaspiration. Souvent, c'est au niveau des hanches ou au-dessus du nombril pour qu'on ait un meilleur résultat esthétique. Et c'est vrai qu'il y a une grande tendance qu'on appelle le lipofilling, c'est-à-dire qu'on ne gêne pas la graisse, mais on la récupère pour la réinjecter dans d'autres endroits.
Vous faites de la chirurgie écolo, quoi.
Exactement.
Rien ne se jette.
Voilà, tout se transforme, exactement. Et donc, on peut l'injecter dans les seins. C'est vrai que les femmes, après de multiples grossesses, peuvent avoir ce qu'on appelle une tose des seins, c'est-à-dire des seins qui se sont vidés et qui tombent. Donc, on peut utiliser cette graisse pour renflouer les seins. On peut l'utiliser aussi pour le vieillissement du visage ou pour les fesses, qui est une demande
le
actuellement.
Visage,
combler les rides avec la graisse des fesses, on la met dans le visage.
Alors, pas la graisse des fesses, mais du ventre, tout à fait.
D'accord.
Ou de la culotte de cheval. Oui,
et
oui.
Ça donne des bons résultats, autant que le, je sais pas, l'acide hyaluronique ?
Ah, ça donne de meilleurs résultats que l'acide hyaluronique, parce que dans la graisse, vous avez des cellules souches, donc vous améliorez énormément la qualité de la peau, et puis surtout, les résultats sont pérennes.
C'est vraiment tout bénef, là. On récupère ce qu'on jette, on le remet ailleurs, et rien ne se perd. Même la peau, d'ailleurs, je crois que vous retirez du tablier abdominal, vous la jetez pas. Hein.
Non, on récupère, nous, systématiquement, en tout cas, l'hôpital Henri Mondor, hein, qui est un centre hospitalo-universitaire, on récupère la peau des patients, bien sûr, avec leur consentement,
évidemment,
pour
oui.
la recherche. Ce sont donc des témoins sains et c'est vrai que ça nous permet de découvrir des pathologies.
C'est génial. Donc,
les origines tout sert et même à la recherche, Jimmy, c'est fabuleux, non?
Bah oui, et en plus, quand vous réinjectez ce qu'on a aspiré, il n'y a pas de risque de rejet, vu que c'est son propre corps qu'on réinjecte.
Exactement, c'est l'autologue. Donc, finalement, c'est ses propres cellules. Si on se traite par ses propres cellules.
Qu'on subisse une abdominoplastie parce qu'on a été obèse et qu'on a été un patient obèse et qu'on a eu une chirurgie bariatrique, donc on a perdu beaucoup de poids, ou après des grossesses par exemple, ça dure combien de temps à peu près au bloc? Peut-être pas la même durée d'ailleurs en fonction des indications, mais combien de temps?
Alors ça peut durer entre 1h30 et 3h.
C'est quand même une grosse intervention, il faut le dire. Hein. Je crois d'ailleurs que c'est une des interventions esthétiques les plus risquées, on
tout
le dit.
Tout à fait.
Hein. Pourquoi?
Tout à fait. Parce qu'il y a le risque thromboembolique, hein, qui est un risque qui est rare, mais très grave en chirurgie plastique, où c'est une chirurgie de confort, hein. C'est une chirurgie aussi qui est esthétique, fonctionnelle, et c'est vrai qu'on ne veut pas emmener nos patients au casse-pipe.
C'est l'embolie pulmonaire dont
c'est l'embolie pulmonaire. Mais... pourquoi? Parce que en fait, quand vous soulevez le capot abdominal, vous coupez toute la circulation veineuse, et donc vous créez une hyperpression dans les vaisseaux sanguins en amont, donc dans les membres, et donc il y a un risque thromboembolique qui est très important, et surtout qu'on va parfois serrer les muscles, mettre des gaines, donc on rajoute un risque supplémentaire de ces pressions dans les veines avec ce risque thromboembolique.
Et donc pour lutter contre ce risque, je crois que vous faites des injections d'anticoagulants, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je crois qu'au bloc aussi, vous utilisez des bas massants, c'est quoi ça?
Exactement, ça s'appelle des bas pneumatiques motorisés, c'est-à-dire que les patients ont des bas qui les massent pendant toute l'intervention, et puis ensuite effectivement des piqûres
pour le retour veineux, hein, c'est ça pour,
exactement, pendant l'intervention pour éviter la phlébite.
Jimmy?
Et pendant l'avion, et si on veut prendre l'avion ensuite, c'est contre-indiqué, on peut quand même voyager?
Tout à fait. Alors nous, on dit toujours à nos patients, après une abdominoplastie, on ne prend pas l'avion pendant au moins un mois. Donc c'est pour ça que c'est très risqué, tous ces patients qui vont dans d'autres pays étrangers pour avoir de la chirurgie low cost, qui ressortent sans bas de contention, sans piqûres d'anticoagulants.
Dans des pays où il fait chaud, en plus.
Exactement,
souvent,
ouais. Et qui vont prendre l'avion immédiatement. Et donc, ces patients, ils arrivent à Paris, ils font l'embolie pulmonaire.
Ouais, donc bon, vaut mieux se faire opérer ici, effectivement,
tout
et pas prendre l'avion tout de suite. Je crois que la contre-indication absolue de cette intervention, donc on a dit qu'il y avait un risque de thrombose, mais c'est quand même le tabac. Alors, tous les chirurgiens plasticiens qui sont venus sur ce plateau, je crois, nous l'ont dit, mais je crois que dans l'abdominoplastie particulièrement, vous n'aimez pas le tabac. Pourquoi?
Tout à fait, parce qu'il va y avoir énormément de cicatrisation. Il va y avoir la cicatrisation sous le tablier abdominal qui aura été lifté, plus de la cicatrice. Donc cette peau finalement abdominale, on la maltraite un peu. On la tire, on la lipoaspire. Donc si vous rajoutez le tabac, le risque c'est la nécrose totale de la peau.
Oula, ça veut dire quoi une nécrose? C'est la peau, elle meurt.
La peau, elle meurt. La peau
ça
meurt.
Devient tout noir. C'est,
exactement,
c'est
et on obligé de voilà ouais. Et on est obligé de réopérer les patients, enlever cette nécrose et faire des pansements, laisser ouvert en cicatrisation dirigée. Donc vous voyez un patient qui est venu pour s'améliorer, pour l'estime de soi, eh bien il repart avec finalement des gros pansements. Donc
mieux
voilà.
Vaut ne pas fumer avant de se subir l'intervention. Combien ça coûte très rapidement cette intervention? C'est pris en charge par l'assurance maladie dans certains cas, je crois.
Oui, il y a certains cas où c'est pris en charge, comme on l'a dit, après chirurgie bariatrique et quand il y a un tablier abdominal qui recouvre les organes génitaux. Dans ce cas-là, il peut y avoir une prise en charge. Après, tout dépend, bien sûr, s'il y a des dépassements d'honoraires ou pas. Ça dépend où le patient consulte.
Mais en moyenne, et sinon, c'est 3 000, 5 000
voilà,
euros.
Au niveau esthétique, c'est entre 3 500 et 5 500 euros.
Merci, professeur Arsan. Nous allons continuer cette discussion dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on va vous détailler une autre technique. On va parler du body lift, une chirurgie de l'abdomen où on fait aussi en même temps un travail esthétique au niveau des fesses notamment. Et puis évidemment, on va vous parler de l'abdominoplastie mini-invasive grâce à un robot piloté par le chirurgien. Quasiment pas de cicatrices, une opération moins lourde. On vous détaille tout ça juste après. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est le professeur Barbara Hersan, chirurgien plasticien et esthétique à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, assistance publique hôpitaux de Paris. Professeur Hersan, on va s'arrêter à présent sur une autre technique, le body lift. C'est quoi ça? On ne sait pas du tout, body, le corps, lift, on lift tout le corps, là, on ne fait pas que le ventre.
Voilà, donc finalement, c'est comme une abdominoplastie, mais circulaire. C'est-à-dire qu'on va avoir une cicatrice en string, où on va pouvoir lifter et le ventre, le dos et les fesses.
Donc la cicatrice, elle est derrière?
Elle fait tout le tour, donc elle est cachée dans la culotte entièrement. Donc en string.
D'accord, une cicatrice en string. Jimmy, vous voyez à quoi ça ressemble du coup?
Oui, merci. Oui, mais du coup, quand est-ce qu'on utilise cette technique?
Alors on l'utilise quand il existe également un excès cutanés et graisseux au niveau des hanches et également une tose des fesses. Et parfois, on voit des gens qui ont cet excès au niveau des lombaires. Et donc, ça, c'est vrai qu'une abdominoplastie simple ne peut pas traiter l'arrière du corps.
Ça, c'est indiqué, par exemple, pour les patients dont vous parliez après une chirurgie bariatrique qui ont perdu 70 ou 80 kilos.
Oui, en particulier.
C'est surtout pour eux, c'est ça. Il faut avoir quand même, pour les grosses pertes de poids, enfin oui, les importantes pertes de poids, c'est très indiqué, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Après grossesse, pas trop, c'est pas...
Non, ça c'est pas fréquent. Après maintenant, il y a quand même une demande qui est de plus en plus importante en esthétique, parce qu'il y a un engouement pour la chirurgie des fesses, avoir des fesses très liftées, rebondies. Et c'est vrai qu'on peut utiliser la graisse des lombaires et des hanches qu'on peut mettre dans les fesses.
Mmh. Alors c'est un lifting, si j'ai bien compris, qui fait tout le tour du coup, du ventre jusqu'aux fesses. On travaille sur les hanches aussi. J'imagine que c'est quand même plus complexe comme intervention que ce dont on a parlé avant. Donc c'est plus long, on bloque aussi.
Voilà, c'est le double de temps, puisqu'on commence, le patient est sur le ventre, on commence par donc cette partie dorsale et les fesses, puis on retourne le patient qui est endormi et on termine par la plastie abdominale.
Donc parfois jusqu'à 6 heures quand même d'intervention. Voilà. Jimmy ?
Et du coup, je suppose que la récupération est plus difficile et plus longue que dans une abdominoplastie classique ?
Oui, tout à fait, parce qu'il y a des problèmes de position notamment, parce que là, la cicatrice, elle est circulaire. Donc, quand le patient est assis, ça tire beaucoup sur la cicatrice. Donc, les patients doivent éviter pendant quelques temps la position assise. Donc, ils peuvent être debout ou allongés dans le lit.
Ouais, on ne va pas se mentir, Jimmy, c'est quelque chose qui doit être quand même... C'est difficile, on ne s'en remet pas non plus en deux jours, quoi. Au bout de combien de temps on peut reprendre, je sais pas, son travail, par exemple ?
En général, les patients ont un arrêt de travail de 3 semaines.
Ah, quand même, ah oui, donc c'est une grosse intervention, effectivement. Il faut un petit peu de temps pour s'en remettre. Ça, vous en parlez aux patients avant, ils le savent.
Ah oui, tout à fait.
C'est quelque chose qui est lourd. Vu que c'est plus long, vu que c'est plus complexe, vu qu'on met plus de temps à s'en remettre, j'imagine que c'est quelque chose qui est beaucoup plus cher et c'est de l'esthétique en plus.
Alors, il y a aussi une possibilité de prise en charge par la Sécurité sociale, dans les mêmes conditions que l'abdominoplastie. Donc, c'est soumis en temps de préalable, c'est-à-dire que le chirurgien doit faire une feuille auprès de la Sécurité sociale que le patient envoie. Et c'est le médecin conseil de la Sécurité sociale qui va examiner le patient et qui va donner son feu vert ou pas. Donc, il peut y avoir quand même une prise en charge pour le body lift. Et en esthétique, effectivement, c'est beaucoup plus cher. On est dans des tarifs entre 5 000 et 10 000 euros en fonction des praticiens.
Même beaucoup plus cher. Il y a vraiment beaucoup de demandes pour cette version-là, on va dire, que l'abdominoplastie classique, parce que du coup on fait tout en même temps, c'est quand même assez avantageux aussi.
Alors c'est moins demandé que l'abdominoplastie parce qu'effectivement beaucoup de femmes se sentent gênées d'avoir cette cicatrice au niveau des fesses, mais elle est quand même de plus en plus prisée.
Bon, si c'est caché dans la culotte, en même temps, c'est pas non plus très, très handicapant, à part dans l'intimité, mais en maillot de bain, on voit rien sur la plage.
En maillot de bain, on voit rien.
Oui, donc c'est quand même pas mal. Jimmy ?
On va parler un petit peu d'abdominoplastie mini-invasive avec un robot. Alors, c'est expérimental, mais vous avez présenté les résultats, justement, au congrès de chirurgie esthétique de l'IMCAS au mois de janvier. Comment ça se passe ?
Ah oui, j'avais présenté effectivement le protocole. Les auditeurs peut-être ne le savent pas, mais la chirurgie robotisée, c'est la seule chirurgie qui nécessite un marquage CE, donc une autorisation pour être pratiquée. Donc là, pour l'instant, c'est un protocole expérimental. Et si on valide cette indication, il y aura peut-être un marquage CE et on pourra peut-être la faire en routine par la suite.
Et là, ça consiste en quoi, du coup, avec ce robot ? C'est une abdominoplastie,
alors,
toujours ?
C'est une abdominoplastie, mais particulière. Ça s'adresse aux patientes après grossesse qui ont effectivement les muscles qui se sont écartés, les muscles des grands droits, les muscles des tablettes de chocolat, qui font qu'elles ont un ventre un peu globuleux. On a l'impression qu'elles sont encore enceintes.
Vous voyez, Jimmy, les tablettes de chocolat, parce que ça peut-être vous être un peu étranger.
Je
montrerai où c'est.
Chocolat, c'est que dans le tiroir. Je
donc oui, ça s'écarte avec les grossesses.
Voilà, ça s'écarte. Donc malheureusement, il y a des patientes, on pense qu'elles sont encore enceintes. Et ça s'adresse pour ces patientes qui ont ce problème, mais sans l'excès de peau, sans le tablier abdominal. Donc ces patientes-là, les pauvres, on les traite avec les mêmes cicatrices que les plastiques classiques. Donc elles ont une cicatrice d'une hanche à l'autre pour refermer les muscles sans forcément qu'on tire, qu'on lifte la peau. Donc pour ces patientes qui n'ont pas besoin de lifting abdominal, on peut, par le robot, par 3 petites incisions, aller refermer ces muscles avec donc une rançon cicatricielle qui est beaucoup plus faible.
Vous allez resserrer tout ça, en fait, c'est
exactement
ça ?
Exactement.
Avec 3 petites trous
seulement.
C'est
comme une gaine, mais à l'intérieur.
C'est génial. Et donc, c'est pas vous qui le faites ? Enfin, si, c'est vous qui le faites, on va y venir. Le robot, il n'est pas tout seul, c'est grâce à un robot. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi il ressemble, ce robot ?
Alors, le robot, dans cette indication, c'est vraiment un outil. Donc, le robot va permettre, par sa précision, et une caméra, va nous permettre d'aller assez, finalement, assez loin, ce qu'on n'est pas capable de faire avec nos mains, avec trois petites incisions, on n'est pas capable de remonter jusqu'en haut des côtes.
Hein. Avec vos mains, vos doigts, c'est pas possible.
Exactement.
Hein, et les outils, bien sûr.
Parce qu'on cache toujours les cicatrices au niveau du pubis, donc dans la culotte. Donc c'est vrai que c'est pas facile pour nous, hein, les humains, de pouvoir aller opérer comme ça sous la peau. Ou alors, il faudrait avoir des doigts de 30 cm. Donc grâce au robot, finalement, on peut faire un midi décollement. Qui dit moins de décollement sous-cutané dit moins de complications thromboemboliques, oui. Moins d'hématos, moins d'infections. Et par cette caméra et puis cette vision en trois dimensions, on peut suturer ses muscles de haut en bas.
Mais le robot, c'est quoi? Moi, j'imagine toujours les robots dans les films. Non, ça n'a rien à voir. C'est un bras articulé, en fait.
Hein, c'est comme une grosse araignée avec des bras. Une caméra.
Des bras, il y en a plusieurs.
Donc, voilà, il y a plusieurs bras. Donc nous, dans cette indication-là, on a deux bras qui travaillent, plus une caméra. Et nous, on est 10 mètres plus loin à la console et on pilote le robot.
Jimmy ?
Et en plus, l'avantage, c'est que ça va plus vite. Vous aviez dit tout à l'heure, 1h30 à 3h pour une abdominoplastie classique. Là, vous faites ça en combien de temps ?
Contrairement à ce que vous pensez, en fait, ça va un petit peu, c'est plus long parce que le temps d'installation avec le robot est assez long.
Qu'est-ce qu'il faut installer avec ce robot ? Il n'est pas déjà tout prêt ?
Et non, il faut l'amarrer à la patiente.
Ça veut dire quoi, ça?
Eh ben, écoutez, il faut mettre des trocars. Donc, ce sont des orifices des outils qui maintiennent les orifices cicatriciels en place pour passer les instruments. Et donc, ce qui est très important, c'est la sécurité. Parce que vous imaginez une machine comme ça qui tomberait sur la patiente. Donc, il y a tout un temps d'installation qui est assez long.
Et oui, puis c'est personnalisé quand même. Parce que même si le robot, il fait toujours à peu près la même chose, parce que vous lui demandez de faire, chaque patiente n'a pas exactement la même morphologie.
Exactement.
Donc, il faut adapter. Donc, il faut l'amarrer.
Donc, c'est ensuite, le chirurgien qui amarre toujours le robot à la patiente.
Et ensuite, vous faites quoi avec le robot? Donc, vous l'avez amarré.
Et après, on va le piloter à la commande.
Vous l'équipez parce qu'il a des outils au bout de ses petits doigts. Là.
Exactement.
Vous lui mettez quoi comme outil, hein? Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on lui met?
Alors, des pinces, porte-aiguilles, on rentre des fils.
Et vous avez une infirmière qui s'occupe du robot aussi.
Qui chouchoute le robot.
Non, mais c'est vrai, on a l'infirmière qui s'occupe du chirurgien, ou la penseuse.
Exactement. Alors, souvent, on travaille à deux chirurgiens. Il y a un chirurgien qui est avec le robot et un chirurgien qui pilote à la console. Donc souvent, c'est deux chirurgiens.
D'accord. Et il n'y a plus d'infirmières de bloc, alors, avec ça?
Si, il y a des infirmières, il y a beaucoup d'entretiens.
Hein, ouais, c'est ça. Et c'est ça. Est-ce que, en fait, ce n'est pas un peu le même principe que la célioscopie? Parce que vous dites que c'est des petits trous. Donc, c'est un peu le même principe. C'est ça, on fait des petits trous et on rentre des instruments comme avec la célio.
Vous avez tout à fait raison. En fait, le robot, c'est de la célioscopie améliorée.
Ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment le plus gros avantage pour le patient, c'est que c'est moins lourd comme intervention. C'est ça le principal avantage.
Voilà, c'est moins lourd, les suites beaucoup plus simples, et puis beaucoup moins de cicatrices.
D'accord. Une fois que vous l'avez amarré, le robot, ensuite il va rentrer ses outils, c'est vous qui le pilotez. Vous êtes installé comment? Vous dites que vous êtes à 15 mètres, vous êtes en bonne position, je crois, parce qu'on a fait une émission sur la chirurgie robotique il n'y a pas très longtemps dans cette émission. Je crois que vous êtes comme dans un simulateur, c'est ça un peu?
Exactement, c'est très confortable pour le chirurgien. On n'est pas habillé en stérile, on est assis, on peut même avoir son téléphone à côté de soi.
Bon, vous évitez quand même, j'imagine, le téléphone, vous répondez pas. Ben, si un jour vous la faites sur moi, vous évitez de répondre à vos textos. Mais du coup, bien installé comme ça et vous pilotez votre machine, quoi.
Exactement.
D'accord. Et si la machine, elle bug, il se passe quoi?
Alors, il y a toujours des protocoles, évidemment. Et donc, s'il y avait une coupure de courant, de toute façon, le robot, il y a, si vous voulez, un générateur supplémentaire qui se met en place et les bras s'arrêtent de fonctionner. Et nous, manuellement, on peut retirer les instruments qui sont à l'intérieur du patient en toute sécurité.
Et vous pouvez reprendre la main manuellement, je veux dire. Enfin, reprendre la main, oui, manuellement.
Oui, tout à fait.
Forcément.
Mais il faut savoir qu'avant de faire du robot, hein, il y a de nombreuses formations et on est entraîné un peu comme un pilote d'avion à toutes ces procédures et à tous ces risques, finalement, de coupure de courant.
Jimmy ?
Et lorsqu'on parle d'abdominoplastie, est-ce qu'il faut avoir eu son poids de forme, son poids idéal? C'est-à-dire que si on a encore des kilos à perdre, mieux vaut attendre avant de se faire opérer?
Alors, idéalement, si on veut avoir le plus beau résultat possible, il vaut mieux, oui, retrouver tout à fait son poids de forme. Après, certaines personnes n'y arrivent pas, donc on va les aider avec la lipoaspiration. Par contre, nous, il est clair hein, c'est pas une chirurgie pour les gens obèses. C'est vraiment une chirurgie pour les gens qui ont maigri.
Est-ce qu'il y en a qui vous disent « ouais, je maigrirai un peu après », c'est ça? Mais non, en fait.
Alors, on essaye toujours de les coacher pour qu'ils maigrissent un maximum. Après, c'est vrai qu'il y a des patients qui sont toujours en surcharge, mais qui ne sont pas obèses, qui ont tout essayé, hein, qui ont vu des nutritionnistes, qui font du sport. Et c'est vrai que parfois, une chirurgie comme celle-là peut redonner un peu...
un petit coup de boost.
Ouais, exactement. Ouais. Et on peut avoir des pertes de poids par la suite.
Oui, mais alors du coup, ça abîme tout le travail que vous avez
exactement,
fait,
j'imagine. Exactement, et on est obligé de reprendre la cicatrice.
Ah ouais, ça c'est un petit peu dommage. Effectivement, mieux vaut maigrir après, parce qu'on est d'accord, c'est pas de la magie non plus, c'est pas définitif. Si je regrossis...
Oui, et si on regrossit, malheureusement...
Ça le pète d'ailleurs, parce que vous avez tellement tiré que la peau risque de craquer, non?
Enfin, non, c'est quand même bien fait, donc il y a le risque de vergéture, hein, la peau qui craque. Et puis surtout, le risque, c'est que ça ne soit pas du tout esthétique, parce que vous avez sous la cicatrice de la fibrose, donc vous n'avez pas une prise de la graisse qui est homogène, donc ça fait une espèce de, si vous voulez, de coup de hache, je dirais, au niveau de la cicatrice. Donc, ce n'est pas esthétique.
Jimmy ?
Si on parle, là, en reprenant toutes les interventions d'abdominoplastie, quel est le niveau de satisfaction des patients ou des patientes ? Ils sont plutôt satisfaits ?
Il est très élevé. Hein. C'est une intervention qui donne beaucoup de satisfaction, hein, plus de 80%. Alors, il peut y avoir des petites plaintes des patients concernant la cicatrisation. Mais ça, vous savez bien que la cicatrisation, ça dépend de chacun. Donc, on donne le maximum de conseils. Et puis, bon, ça, il peut arriver qu'on reprenne la cicatrice. Mais maintenant, on a du laser. Voilà, on a pas mal de protocoles pour les gens qui cicatrisent mal.
Merci beaucoup, professeur Arsan, d'être venu sur notre plateau.
Merci à vous.
Nous en dire beaucoup plus donc, sur toutes ces techniques d'abdominoplastie. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique « Les maux du quotidien ». Et aujourd'hui, on s'est intéressé à la coqueluche, une maladie très contagieuse qu'on peut certes éviter avec la vaccination. Mais il y a encore des cas chaque année et chez les bébés, cela peut être particulièrement dangereux. On en parle dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence les maux du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de la coqueluche. Savez-vous quels sont les symptômes de cette maladie? Quelles sont les populations les plus à risque? Et qui doit particulièrement se faire vacciner? Notre reporter Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
Ça me dit quelque chose, j'en ai entendu parler maintenant, je ne me rappelle plus qu'est-ce que ça touche. L'œil, je crois.
Je dirais que c'est une maladie ou c'est pas plutôt un vaccin?
Alors la coqueluche, c'est une maladie, je pense, infantile, dérivée de la varicelle ou de la rougeole, je sais pas.
À l'époque des parents, ça s'entendait beaucoup, enfin des dires des parents, j'entendais beaucoup cette maladie dans les discussions.
Un petit est dans une crèche et il a la coqueluche, voilà, il peut le transmettre à d'autres enfants.
J'ai jamais entendu parler du vaccin de la coqueluche. Mais je pense que oui, tous les nourrissons, je pense qu'il doit y avoir droit.
Je pense qu'on commence 3 ou 4 mois à peu près, premier vaccin.
Quand on est enfant, on se fait vacciner exprès pour toutes ces maladies infantiles, quoi.
Bon, reprenons du début. D'abord, Jimmy, dites-nous en plus sur la coqueluche en tant que maladie, c'est quoi?
Alors, c'est une infection bactérienne qui est liée à une bactérie qu'on appelle Bordetella pertussis.
Ouais, vous aimez bien donner des noms compliqués à chaque fois.
Oui, mais c'est son petit nom, voilà. Vous, c'est Mélanie. Voilà, elle, c'est Bordetella pertussis. C'est moins sympa.
Ouais, c'est vrai.
Elle se manifeste par des accès de toux en quinte qui entraînent une gêne respiratoire et qui font parfois vomir les enfants. Ils ont cette toux qui est souvent nocturne, qui rend l'alimentation très compliquée. La toux peut s'étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et souvent, le diagnostic est difficile car on n'a pas de preuves, si ce n'est de faire une prise de sang pour la mettre en évidence. On sait qu'il y a des complications. La première, c'est de faire des surinfections, donc de faire une otite secondairement à ça, de développer une pneumopathie, de faire des convulsions liées
à
cette
coqueluche.
On en a parlé. Et puis, il y a des complications beaucoup plus rares, notamment des complications cérébrales.
Plus graves aussi, hein, ouais.
Plus rares et plus graves, notamment les complications cérébrales. Et on sait que la coqueluche était responsable aussi de la mort subite du nourrisson avant qu'on vaccine les gens. On va en parler juste après.
D'accord. Et donc, le rempart contre cette maladie, vous venez un petit peu de l'amorcer, c'est la vaccination, hein, c'est sûr.
Exactement. Plusieurs dizaines de bébés mouraient chaque année de la coqueluche avant la vaccination. Et depuis qu'on les vaccine, et surtout qu'on vaccine les parents, la fratrie, les grands-parents, eh ben ça permet de réduire ce risque de mort subite, notamment du nourrisson, et puis de la coqueluche chez les enfants. On vaccine les enfants avec 3 doses de vaccin, et donc c'est évidemment dommage de développer une coqueluche quand on a un moyen fiable, sûr et efficace de prévention, qu'est la vaccination.
Alors justement, qui doit se faire vacciner impérativement?
Alors la coqueluche rentre dans le cadre de la vaccination obligatoire désormais à partir du 1er janvier 2018. On la fait à partir de 2 mois, on fait ensuite une injection à 4 mois, à 11 mois, un rappel à 6 ans, puis à 11-13 ans, et puis après, on suggère ça, de faire ça tous les 5 ans.
À 25 ans, il y a un rappel, en tout cas, parce qu'on sait que c'est l'âge où on est en âge de procréer, globalement, donc 25 ans.
Exactement, et cette vaccination, on l'a fait dans le cadre des autres vaccins, on ne fait pas que le vaccin contre la coqueluche. Elle est recommandée aussi, du coup, pour les adolescents, les adultes qui auraient un nourrisson dans l'entourage qui aurait moins de 6 mois, et puis chez les enfants, qui veulent avoir un enfant, les grands-parents en prévention de cette mort subite, ou si la maman vient d'accoucher ou le papa vient d'accoucher, encore une fois, la stratégie, on appelle ça de cocooning, pour protéger l'enfant qui vient de naître.
D'accord, et on peut le faire même si on allait. Hein. Je crois qu'il n'est pas contre-indiqué avec l'allaitement. Est-ce que c'est un vaccin qui est efficace? Parce qu'on sait que, par exemple, le vaccin contre la grippe, il n'est pas efficace à 100%. On sait que l'efficacité, elle varie d'un vaccin à l'autre. Celui-là, il l'est ou pas?
Oui, il l'est. On sait qu'il est. Alors, son efficacité varie, évidemment, entre 85 et 100%. La durée de protection, on l'estime à 5-10 ans. Les rappels sont donc nécessaires. Et on sait que la maladie coqueluche en tant que telle immunise plus longtemps que la vaccination. Mais autant éviter la complication en se faisant vacciner.
Et donc, on va insister encore une dernière fois. Si vous ne savez plus où vous en êtes dans vos vaccinations, surtout demandez conseil à votre médecin. Et on insiste, hein, Jimmy, la coqueluche, le virus de la coqueluche, la bactérie de la coqueluche, circule vraiment toujours en France. Hein.
Oui, c'est les résultats du réseau hospitalier pédiatrique d'analyse de la coqueluche, Rhénacoque. En 2016, 128 cas de coqueluche ont été confirmés chez les moins de 17 ans, dont 32% de nourrissons de moins de 3 mois. Près de 90% des enfants dont le carnet de santé a été analysé n'avaient pas été vaccinés ou n'avaient pas fait les rappels nécessaires contre le vaccin de la coqueluche. Faites suivre vos enfants et vaccinez-vous.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1, Mélanie Gomez. Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à vous.
Alors Catherine, aujourd'hui on répond à une question, donc une question de Pauline, 34 ans. Je vous la lis, c'est sur l'orgasme, vous allez voir. Bonjour Catherine, lorsque je fais l'amour avec mon copain, avec qui je suis depuis 3 mois, j'ai du plaisir mais pas de grand orgasme. C'est pourtant une relation très chouette et même la meilleure relation que j'ai pu avoir. Est-ce que je suis tout bonnement nul? Alors ça, Catherine, c'est un classique. Hein. Je suis nulle. Les femmes, elles disent toujours ça. Je suis nulle. On rassure d'abord Pauline, hein, d'accord?
Oui, parce que c'est pas le meilleur chemin vers l'orgasme.
Elle est pas nulle, d'accord? Il y a plein de femmes qui arrivent pas à avoir d'orgasme. C'est pas parce qu'on est nulle.
Alors d'abord, il y a plein de femmes. Il y a toutes les femmes qui, à un moment donné, n'y arrivent pas jusqu'au jour où elles y arrivent. Et elles y arrivent pas parce qu'elles se sont évidemment affublées d'être nulles, trop bêtes ou incapables, mais bien parce que justement, elles ont cheminé tranquillement dans la découverte de leurs possibilités, laissant petit à petit de côté leur pudeur. Osant la relation avec un peu plus d'interactivité et du coup petit à petit se crée la relation et ce qui est chouette c'est qu'elle dit que sa relation justement est très chouette, donc elle est sur ce chemin-là mais trop impatiente, on est dans une société où il faudrait avoir tout de suite, prenons le temps.
3 mois c'est pas beaucoup, effectivement Jimmy.
Et puis pourquoi est-ce qu'elle parle de grand orgasme? Il y a des petits orgasmes?
C'est vrai qu'elle parle de grand orgasme, ça veut dire quoi ça?
Je crois que c'est l'idée qu'elle se fait parce que encore une fois nous parlons, alors d'abord l'orgasme il faut bien se dire que c'est quand même un truc qui est formidable, mais qui dure l'espace de quelques secondes.
Combien?
Un orgasme, ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire la jouissance, on peut l'amener. L'orgasme, c'est en fait un pic qui demande immédiatement de retomber. C'est exactement comme quand vous riez à gorge déployée, alors vous avez des sourires, vous avez des rires, vous avez des éclats de rire, mais vous avez des fous rires. Fou rire, on n'arrive pas à le garder. D'ailleurs, on dit stop, on dit arrête, on dit qu'on va se faire pipi dessus, on a une voix qui part tout en vrac, ouais. Parce qu'il faut que ça s'arrête, parce qu'on perd les moyens de soi.
Et l'orgasme, ça dure combien de secondes alors? Parce que vous ne nous avez toujours pas dit.
Bah, c'est l'histoire de 2-3 secondes. C'est un moment où ça monte très très fort. Non, je dis 2-3 secondes. C'est le pic final, mais c'est vraiment l'histoire de quelques secondes. On n'est pas dans la minute. C'est quelques secondes formidables, mais qui nécessitent que ça stoppe. C'est-à-dire, c'est vraiment une montée qui doit s'arrêter. Et c'est cette montée qui doit s'arrêter qui est l'orgasme. Donc quand on vit un orgasme, on le sait, on ne dit pas est-ce que je suis dans un grand ou un petit orgasme. On vit un orgasme.
Et c'est tout.
Et puis évidemment, elle a des plaisirs, mais elle voudrait ce moment où, qui lui échappe, tout en étant dans un contrôle. Mais c'est normal, puisqu'une relation, elle est encore toute neuve et souvent encore empreinte de nécessité de contrôler la situation, de se protéger de l'autre, quand bien même on est désirante ou amoureuse. Et donc, assez naturellement, ce processus se fait et s'abandonne au fur et à mesure de la tranquillité, de ce regard que l'on porte sur soi-même, à s'observer et observer la situation et ce que l'autre pourrait en attendre.
Et Pauline, elle a 34 ans, c'est ce qu'elle nous a écrit. En tout cas, l'orgasme à tous les coups, en général, ça vient plus tard. Je sais que vous nous aviez parlé, Jimmy l'avait bien retenu.
Oui.
De
un chiffre 40 ans.
40 ans, soi-disant, l'orgasme pour la femme, en général. Est-ce que c'est à cause de ça, c'est l'âge, peut-être?
Alors, d'abord, on ne va pas me faire dire que j'ai dit que c'était à 40 ans, il ne se passait rien. Non, évidemment que non. Mais c'est souvent autour de 40 ans, en effet, que les femmes se libèrent, justement, pour celles qui ont peiné à le faire avant. Tout simplement parce que c'est un temps où elles ont derrière elles leurs études, leurs preuves professionnelles, leur vie sociale, leur inscription sociale, leur bébé, leurs compétences à être des mamans. Et elles arrivent en un temps
elles
où...
Elles sont un peu libérées, quoi.
Voilà, elles ont fait des preuves de leur capacité. Et comme vous le disiez très justement, souvent les femmes se flagellent en incapables, je ne serais pas à la hauteur. Et ça, ce sont des siècles d'histoire sur la féminité. Donc, évidemment, il leur faut du temps pour avoir fait la preuve par A plus B de leurs compétences tous azimuts, pour que tout d'un coup, elle se libère. Et justement, comme 40 ans, c'est le moment où il va falloir faire le deuil de sa fertilité, eh bien, c'est le moment où elle cherche une nouvelle fertilité, puisqu'elle s'était réduite à la fertilité faire des bébés. Et tout d'un coup, ça devient une fertilité jouissive, de jouissance en elle-même et d'épanouissement personnel.
Jimmy ?
Et puis, ils sont ensemble que depuis 3 mois. Peut-être que c'est un peu tôt. Il faut peut-être laisser un petit peu de temps que la relation s'installe. Peut-être que l'orgasme, c'est pas dès le début.
Oui, et pour les hommes comme pour les hommes aussi, ils ne lâchent pas comme ça les choses. Certains, ils lâchent trop vite, d'autres, ils mettent du temps, d'autres, ils n'arrivent même pas à éjaculer, d'autres, ils perdent leur érection alors qu'ils les désirent follement. C'est compliqué et c'est tellement émouvant que ça le soit. Si c'était pas compliqué, on pourrait toujours se dire, c'est incroyable, entre nous, ça fit, c'est merveilleux. Mais le problème, c'est qu'on aurait l'impression d'être des machines de guerre. Alors que là, c'est parce que c'est extrêmement compliqué que chacun est délicat l'un vis-à-vis de l'autre. Chacun s'excuse, si ce n'est pas évidemment Gouja où on met la responsabilité sur l'autre. Mais, et c'est cela qui fait aussi la beauté d'une relation.
Donc elle peut prendre un peu le temps, c'est ça que vous lui conseillez, ça viendra sûrement.
Bien sûr, et surtout, arrêtez de se dire qu'on est nul.
Merci beaucoup.
Parce que ça marche. Hein.
Ouais, c'est ça. Donc elle n'est pas nulle, elle est super. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être, tous les jours de 15h à 16h. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipée sauvage, une équipée qu'on retrouve tous les jours avec plaisir. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Après les amateurs, les professionnels, puisque question santé, on reçoit nous Michel Simès, ça sera un peu plus sérieux que vous. Et oui, l'équipée sauvage aujourd'hui, spéciale santé avec l'ami Michel.
Ouais, ça promet Mathieu, évidemment, on va écouter ça avec le docteur Jimmy Mohamed, c'est promis. Et vous, restez sur Europe 1. Hein.